France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et oui, c'était jour pour jour, le 16 décembre 1970, sur les Champs-Élysées, l'avant-première de Peau d'âne, un film qui est resté gravé dans la mémoire des spectateurs, petits et moins petits, et qui s'est transmis jusqu'à aujourd'hui de génération en génération. Peau d'âne, c'est le plus grand succès public en fréquentation de Jacques Demy, à l'honneur donc ce matin, à l'occasion de la sortie d'Il était une fois Peau d'âne, un très beau livre paru aux éditions de La Martinière, signé Emmanuel Pierrat. Et vous, Rosalie Varda-Demy, bonjour.
Bonjour.
D'abord, on écoutait cette chronique de Max Dozom. Vous avez découvert des choses.
Alors, d'abord, cette chronique est formidable. Et je savais un peu, j'allais dire, ce que Michel avait un petit peu mis dans l'affaire Thomas Crown et Peau d'âne, cette espèce de relation. Mais j'adore toujours quand on nous explique, quand on nous donne des clés pour encore mieux comprendre. Et c'est vrai que Michel Legrand était un grand amateur de musique classique. Enfin, j'allais dire, c'est un compositeur de musique pas contemporaine, de variété, j'allais dire, et de musique de film. Mais il avait une très grande connaissance, j'allais dire, de l'histoire de la musique. Et il a toujours dit qu'il aimait les fugues. Donc si vous voulez, ça m'a fait plaisir que vous preniez ça pour l'analyser ce matin. Et puis je suis contente de venir fêter ce film. Et puis je suis contente de venir aujourd'hui, c'est-à-dire 50 ans après la sortie du film sur les Champs-Élysées, dans une seule salle de cinéma, là, où j'étais à la première d'ailleurs.
Quelques jours avant Noël, mais justement on va en parler. Alors on n'a pas de cake d'amour pour mettre des bougies ce matin, mais je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de le faire pour de vrai. Il vaut mieux le laisser à la magie du cinéma. La genèse, le tournage, la sortie de ce film, vous en avez en effet été témoin. Vous aviez 12 ans, même 11 ans pendant le tournage. Depuis, vous êtes devenue créatrice de costumes, directrice artistique. Et avec votre frère Mathieu Demy, vous vous occupez de Ciné Tamaris, qui distribue les films de vos parents Agnès Varda et Jacques Demy. Certains films vieillissent, Rosalie, pas celui-ci, pas du tout. Comment vous l'expliquez?
Je crois que, si vous voulez, d'abord, c'est une adaptation d'un conte. Et les contes, la littérature, beaucoup d'œuvres littéraires ne vieillissent pas. Déjà, on les lit. Au moment où on les lit, on est avec ce qu'on lit et avec l'œuvre. Deuxièmement, je pense que Jacques a fait une adaptation assez hors du temps, même en 70. Et je pense que si on regarde les critiques de l'époque, je me suis d'ailleurs plongée un petit peu dans les archives, il n'a pas eu une si bonne critique au moment de la sortie du film, si vous voulez, parce que les gens étaient un peu déroutés. Il y avait cette espèce d'imaginaire un peu baroque, très luxuriant. C'est la musique de Michel, ces espèces de références anachroniques, si vous voulez. Et puis ces personnages qu'il a voulu rendre, j'allais dire, à double lecture, c'est-à-dire les enfants peuvent voir le film, les adultes peuvent s'amuser. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est un genre qu'on fait. Walt Disney réussit très très bien dans ses nouveaux films, dans ses dessins animés, que les parents puissent y trouver leur compte aussi. Hein. Mais en 70, c'était quand même pas encore tout à fait le style. Il y avait les films pour enfants qui étaient un peu naïfs et bêta, et puis après, il y avait les autres films. Le succès, je sais pas. Je pense qu'il y a, une magie. Je sais pas, il y a une alchimie entre le conte, l'adaptation, l'imaginaire de Jacques, la musique de Michel, les interprètes, les voix. Je sais pas, c'est comme, vous savez, c'est comme une recette qui a bien fonctionné et qui ne vieillit pas parce que peut-être justement elle est là pour ne pas vieillir.
Vous, Rosalie Varda-Demy, qui étiez sur le tournage enfant, il y avait aussi une alchimie sur ce tournage que vous racontez dans le livre, une joie de vivre, un bonheur.
Oui, je le raconte dans le livre que, si vous voulez, un tournage de film où il y a déjà des costumes d'époque merveilleux, dans un château, de la musique sur le plateau, une équipe qui se connaît très bien puisque Jacques avait déjà tourné évidemment avec Catherine, avec Jacques Perrin, des techniciens qu'il connaissait. Vous imaginez quand même que c'est une ambiance plutôt chaleureuse. Et puis, ils étaient, si vous voulez... comment vous dire, ils étaient jeunes. Hein. Enfin, je veux dire, ils faisaient la fête le soir. Fin de semaine, il y avait toujours des grands dîners. Il y avait un côté festif. Et je crois que ça se ressent aussi dans le film. Il y a une joie d'accepter de rentrer dans le monde de Demy sans faille, si vous voulez. Il vous prenait la main et il vous mettait dans ce monde-là, dans cet imaginaire-là. Et vous étiez acquis à ça.
Jusqu'à 9h, on va se promener dans le film, dans ses origines, sa genèse, son monde, son demi-monde et dans ses chansons. La plus célèbre d'entre elles, vous parliez de recettes, c'est celle qui a donné envie à des millions de petites filles, et pourquoi pas d'ailleurs des petits garçons, de devenir des princesses.
Plate et sans plus de discours, allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, quatre mains bien. Autour d'un puits creusé, choisissez quatre frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. De sucre parsemé, et vous amalgamez une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel, et un soupçon de sel. Glisser un présent pour votre fiancé, un souhait d'amour s'impose, tandis que la pâte repose, laissez le plat.
Cette fille doit être fine pâtissière, s'exclamera plus tard Micheline Prel dans le film La recette pour un cake d'amour, musique de Michel Legrand, la voix d'Anne Germain. Le double chanté de Catherine Deneuve, il y a vraiment ça dans les films de Jacques Demy et de Michel Legrand. Rosalie Varda-Demy est avec nous ce matin pour ce livre. Il était une fois, Peau d'âne, nouvelle édition aux éditions de la Martinière avec Emmanuel Pierrat. Et donc c'est aujourd'hui, 16 décembre, qu'apparaissait pour la première fois sur un écran en France ce film. Vous avez un souvenir précis de ce jour-là, d'il y a un demi-siècle ?
Ah, je me rappelle très bien de la première qui a eu lieu sur les Champs-Élysées. On est allés tous en famille. Je me rappelle même de la robe de Catherine Deneuve. Je me rappelle qu'elle avait une robe magnifique pailletée avec la plume en bas de la robe, des plumes d'autruche. Elle avait une espèce de version contemporaine d'une robe de princesse. Elle était magnifique. Je me rappelle absolument de cette première.
Le tournage, vous y avez assisté. D'ailleurs, vous allez faire des jalouses et des jaloux, puisque si j'ai bien lu cette fameuse bague qu'on glisse dans le cake, c'est vous qui en avez hérité.
Je l'ai eue, oui. À la fin du tournage, Jacques me l'a offert. Elle est restée enfouie dans la boîte des bijoux de famille chez ma mère pendant des décennies. Et en fait, je l'ai retrouvée en 2014 quand on a voulu restaurer le film et que Mathieu, mon frère, a suivi l'étalonnage lors de la restauration. Agnès a participé et d'un seul coup Agnès m'a dit comme ça, mais tu sais là-bas, tu te rappelles? Je dis oui, je me rappelle, mais bon, ah bah tu sais, je l'ai toujours gardée pour toi. Donc on a ressorti une petite bague et évidemment la taille ne me va pas vraiment parce qu'en fait il y avait trois bagues, évidemment, une trop petite, une moyenne, parfaite pour Catherine, et une évidemment trop grande. Le principe même, quand même, que...
Réalisé avec trucage.
Réalisé avec trucage, des trucages à la Méliès, des vrais trucages sur le plateau, pas en numérique. Donc cette bague a réapparu et je me suis dit que c'était un peu un signe pour essayer d'ouvrir les portes de ma mémoire. Et les portes de la mémoire, quand vous les ouvrez, un souvenir amène un autre souvenir. Et c'est comme ça qu'est un peu venue l'idée de se faire ce livre. Et je me suis fait accompagner par mon ami Emmanuel Pierra, avocat doué, insomniaque, invétéré et qui publie à peu près 5 livres par an, mais qui m'a accompagné et qui a travaillé avec moi sur ce livre pour m'aider, m'encourager.
Donc vous racontez non seulement l'histoire de ce film, mais aussi avec des archives, des photos, de l'iconographie, toutes les influences artistiques de Jacques Demy. D'abord, personnellement, Rosalie Varda-Demy, vous êtes costumière. Est-ce que c'est vraiment dans ce film que vous avez mis le doigt dans ce merveilleux-là?
Oui, je pense qu'inconsciemment, oui. C'est-à-dire que la costumière du film, Gite Magrini, était une costumière italienne qui avait beaucoup vécu en France, qui a beaucoup travaillé avec les films, dans les films de la Nouvelle Vague, notamment avec Rivette, et puis après avec Bernardo Bertolucci. Les maquettes des décors avaient été dessinées par Pace, Agostino Pace, un décorateur de théâtre et d'opéra. J'ai traîné là, j'étais son nom, je traînais sur le plateau, je cousais 3 paillettes, j'étais admirative de tous ces bouts de chiffon merveilleux, brillants, etc. Je pense que oui, j'allais dire inconsciemment, ça m'a donné l'envie de devenir costumière et j'ai fait des études d'art après et je suis devenue costumière. J'ai abandonné ce métier pour m'occuper des films d'Agnès et de Jacques, mais...
C'est beaucoup d'opéra d'ailleurs.
Beaucoup d'opéra, oui, beaucoup d'opéra, un peu de cinéma, beaucoup d'opéra, un peu de danse, un peu de variété. Mais... Vous savez, c'est inconscient tout ça. On peut l'analyser après, mais sur le moment, je ne savais pas du tout que j'allais devenir costumière.
On vous voit d'ailleurs en costume, oui. Dans des... C'est un Super 8, en fait, c'est un film...
Oui, Agnès s'amusait toujours à filmer avec une caméra Super 8, et elle était venue sur le plateau, donc elle a filmé un peu les à côté, les amis qui passaient. Et encore, vous savez, on réalisait avec Mathieu, mon frère, hier, qu'on range la maison d'Agnès... que ma mère a jamais documenté notre propre vie. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'elle était photographe au départ, elle est devenue cinéaste, elle a continué à faire de la photographie, mais en fait, elle n'a jamais documenté notre vie, c'est-à-dire nos vacances, nos dîners, nos amis, les gens qui venaient. Je pense que la photo, pour elle, restait quelque chose de professionnel au sens... pas au sens professionnel, mais au sens de raconter quelque chose, d'un projet. Et donc, en fait, on n'a aucune photo de famille. Donc, les quelques images que j'ai, par exemple, sur le tournage de Podane, où on aurait pu imaginer, elle est venue très souvent, elle aurait pu faire des photos, c'est que ces images Super 8.
Qu'on voit donc dans ce livre, il était une fois Podane. D'ailleurs, est-ce que vous faites partie des figurants de toutes les femmes qui essaient la bague?
Oui, mais j'étais timide. Alors, Jacques voulait que j'essaye la bague devant le prince. Il m'avait fait faire une robe de princesse et puis, comme Catherine Deneuve et le personnage Podane, une robe de souillon. Donc j'étais la plus gâtée de toutes les petites figurantes du film. Mais j'étais tellement timide que j'ai jamais voulu aller essayer la bague. J'ai voulu rester dans l'escalier. Vous savez,
Donc on voit pas à l'écran.
Si, on m'aperçoit dans l'escalier, mais il faut vraiment aller chercher. Mais bon, j'étais sur le plateau, c'est ça qui comptait en fait.
Et puis vous êtes quand même dans la scène finale qui a fait pleurer des millions de gens dans les parapluies de Cherbourg. Oui. Vous êtes l'enfant de l'amour.
Bah oui, l'enfant de l'amour. Oui. Oui. C'est, vous savez, ça, c'est peut-être que l'amour qu'on a quand on est enfant, c'est peut-être la chose la plus merveilleuse qui existe.
Ce souhait de réaliser ce conte, justement, remonte à l'enfance nantaise de Jacques Demy. On le voit d'ailleurs dans le film Jacques de Nantes. Réalisé par Agnès Varda, évocation de cette vocation pour le cinéma, pour le spectacle. Il le racontait d'ailleurs sur France Culture il y a un demi-siècle, c'était le jour de la sortie du film, écoutez.
Ce même Podane, enfin, moi je l'ai monté en théâtre de marionnettes, vous savez les guignols, ces marionnettes à main, lorsque j'avais 7-8 ans, enfin, entre 7 ans et 12 ans, j'ai passé mon temps à faire du guignol.
Vous aviez déjà tout de même le cœur tourné vers le spectacle.
Oui, complètement. J'ai découvert le guignol à 6 ans, comme ça, un après-midi, ma grand-mère m'a emmené comme ça.
Oui, au Luxembourg ou quelque part par là.
C'était le Luxembourg de ma province, et je suis revenu fasciné. Je veux dire, ma carrière était toute tracée, ma voix était faite, enfin, je n'avais plus le choix. J'étais piégé. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus pensé qu'à la représentation de la vie, qu'elle soit donc guignolesque ou cinématographique ou théâtrale. Je veux dire, c'était ma destinée, j'en étais sûr.
Ces derniers mots, ça montre quand même une ténacité et quelque chose de très têtu.
Mais il était têtu. Jacques Demy, c'était... j'allais dire une main de fer dans un gant de velours sur un plateau. Il était têtu, il a fait une œuvre passionnée, passionnante et faussement légère. C'est un homme qui est mort très jeune, hein, il est mort quand même à 59 ans, donc il y a 30 ans. On oublie tout ça parce que son œuvre est vivante, parce que les artistes ont cette chance que leur œuvre reste en vie. Mais c'était un homme têtu sur ses projets. Il voulait faire des projets qui étaient quand même, j'allais dire, un peu hors de la mode, hors du temps. Aujourd'hui, on regarde son cinéma, je pense, avec une analyse très intéressante parce qu'on a une œuvre entière. Et je trouve qu'on cette jeune génération qui a remis Jacques Demy un peu sur le devant de la scène, qui a commencé par tous ces journalistes des Inrock, c'est vrai qu'au moment où Jacques est mort en 90... Honnêtement, il était un peu au pilori. Hein. Ses derniers films n'avaient pas trop marché. On considérait qu'il était has-been, que les comédies musicales, ça marchait pas. Il a beaucoup souffert dans ces dernières années de pas trouver ce rapport avec le succès et le public. Jacques Demy voulait faire un cinéma populaire pour tous. Donc voilà, c'est bien de continuer à en parler.
Populaire et avec énormément de recherche et d'influence. On le voit dans ce livre, Il était une fois Podane, parce que c'est un conte de Perrault, mais totalement imbibé de son époque, de 1969-1970. Vous avez passé quelques années en Californie, en famille, Rosalie Varda-Demy, et puis il revient avec tout ça en tête. On voit beaucoup de choses dans ce film, d'ailleurs, notamment les décors, les décors d'un grand décorateur britannique.
Alors, en fait, Jacques avait rencontré un peintre à San Francisco, Jim Léon, qui d'ailleurs est venu s'installer à vivre en France. Il avait travaillé, il avait fait des affiches pour les Pink Floyd. C'était un homme, un artiste incroyable, qui a eu une petite carrière de peintre, très talentueux, professeur après à l'École des Beaux-Arts à Lyon. Je pense qu'il était très imbibé de cette contre-culture américaine. Et en fait, ils se sont rencontrés et je crois qu'il y avait quelque chose qui s'est passé entre eux. Et en fait, au départ, Jacques voulait travailler avec son décorateur Bernard Evin, qui avait fait un projet, j'allais dire, très à la manière de Cocteau, très luxuriant, très etc., comme ça. Et en fait, la productrice, Mac Bodard, a dit « Non, mais on ne pourra jamais payer tous ces décors, c'est impossible. » Et en fait, elle l'a un peu contraint à changer l'esthétique du film. Et c'est comme ça qu'il a travaillé avec Jim Léon. Mais vous savez, moi, je dis toujours que les contraintes, souvent, amène artistiquement des projets très intéressants. Et je crois que finalement, cette contrainte de ne pas avoir autant d'argent dans les décors les a obligés tous les deux à réinventer un univers baroque pop très très joyeux, très coloré et qui fonctionne complètement, j'allais dire, avec le film. On ne peut même pas imaginer d'autres décors.
Avec ses paravents de Jim Léon.
Les paravents qu'il a peints tout lui-même. Tous les meubles étaient peints par Jim Léon. On regrette beaucoup que tout ait été mis un peu au cimetière des décors.
Y compris votre...
Il n'y a que le chat.
Le trône chat était dans votre chambre.
Oui, le trône chat était...
Dans le livre.
Oui, le trône chat est resté très longtemps dans ma chambre. Et puis après, lui aussi, un peu... il a perdu un peu ses poils et il est parti au cimetière des décors.
Le cimetière des décors, c'est une belle expression. On l'a dit, cette teinte hippie dans le film, mais aussi dans la musique de Le Grand. On en parlait tout à l'heure dans la chronique de Max Dozom avec ses guitares électriques, cette orgue. Et dans cette chanson, ce rêve secret d'un prince et d'une princesse. À la fin du film, ils vont fumer la pipe en cachette, mais que mettent-ils donc dans leur pipe ?
Je ne savais pas que tu m'aimais.
En êtes-vous certain désormais?
Il aura suffi d'un anneau d'or.
Il aura fallu qu'on nous jette un sort.
Mais qu'allons-nous faire de tant de bonheur? montrer ou bien le taire. Ce que d'autres n'ont jamais su faire.
Nos amours resteront légendaires et nous vivrons longtemps après la vie.
Mais qu'allons-nous faire de tout cet amour? Le montrer ou bien le taire? Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
Nous fumerons la pipe en cachette.
Nous nous gaverons de pâtisserie.
Mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs?
Il y en a tant sur terre.
Les rêves secrets d'un prince et d'une princesse, la musique de Michel Legrand pour Peau d'âne, sortie il y a 50 ans. Aujourd'hui, film de Jacques Demy, dont vous racontez, Rosalie Varda-Demy, l'histoire, la genèse, les influences artistiques dont il était une fois Peau d'âne, aux éditions de La Martinière avec Emmanuel Pierrat. Il y a toute une partie aussi dont on a un peu touché du doigt cette question-là, sur la féerie réaliste, sur cet aspect du merveilleux qui est fait de trucages très simples, et on les voit ici dans le film avec des trucages en direct, par exemple.
Oui, oui, c'est ça qui m'a amusée aussi avec mon frère Mathieu quand on a restauré le film. Je pouvais les mettre sur des fichiers numériques, ça s'appelle les DCP, c'est-à-dire que les salles de cinéma ne passent plus des copies 35 mm argentiques, c'est des fichiers numériques qu'on envoie. Et quand on a restauré le film, on avait la possibilité, j'allais dire, d'améliorer les trucages. Quand la fée des lilas traverse le plafond de la chambre de la princesse, bon, le plafond était prédécoupé, il y avait, etc. Donc, on aurait pu effacer tout ça et le rendre parfait. Et avec Mathieu, on s'est dit non, il faut garder le charme du film. Un peu, j'allais dire, des trucages à la Méliès. C'est pareil, la robe couleur du temps, en fait, c'était un trucage en temps réel sur le plateau. La robe était faite en matière d'écran de cinéma. Donc, c'est un tissu avec des petites perles qui réfléchissent la lumière. Et ils ont projeté par un projecteur 16 mm des nuages en accéléré sur la robe en même temps. Et on s'est dit, ben, si ça bave un peu, si on voit de la projection un tout petit peu sur le décor à côté et tout ça, on laisse ça. Parce que c'est ça aussi le charme, si vous voulez, de garder cette espèce de bricolage, c'est pas du bricolage, mais une espèce de façon de faire, quoi, et de pas le rendre aseptisé, complètement parfait. C'est peut-être l'imperfection qui fait le charme. Moi, j'adore me dire que la fée transverse le plafond et que c'est un peu prédécupé, je le vois et ça ne me gêne pas.
Et c'est d'ailleurs ce qui plaît peut-être tant aux enfants.
Bah, je ne sais pas, en tous les cas, nous les enfants de Jacques, hein, donc nous sommes des adultes mais nous sommes restés quand même un peu enfants aussi, on a préféré garder comme ça le charme du film.
On découvre aussi, pour ceux qui ne connaissent pas bien son histoire, qu'il y a beaucoup d'invités sur le plateau. On voit François Truffaut, oui. Qui va voir Catherine Deneuve. Oui. On voit Jim Morrison également.
Oui. François Truffaut, Jacques, il se connaissait de l'époque des Cahiers du cinéma de la Nouvelle Vague. Donc voilà. Et Jim Morrison, ils étaient amis parce que quand mes parents ont vécu à Los Angeles, Jim Morrison, qui s'appelait James Morrison, de son vrai nom, avait fait des études de cinéma à UCLA. En fait, il voulait être réalisateur. Et puis la vie a fait qu'il est devenu musicien-chanteur et qu'il a été une star planétaire. Mais ils sont restés très amis. Ils parlaient beaucoup de cinéma. Il est venu très très régulièrement dans notre maison à Beverly Hills quand on habitait là-bas. Et quand Agnès et Jacques sont revenus à Paris, notamment pour Jacques pour le tournage de Peau d'âne, lui-même a voulu faire une pause dans sa carrière de chanteur. Vous savez, il y avait un peu des scandales aux États-Unis, il y avait eu un mort dans un de ses concerts. Et ils sont restés très amis. C'est comme ça que Jim est resté ami avec notre famille jusqu'à sa mort en juillet 71.
Donc quelques mois après seulement.
Un an après.
Rosalie Vardin-Demy, il était une fois Peau d'âne, qui paraît donc aux éditions de La Martinière. C'est un livre qui paraît dans une période particulière, une période triste. Il y avait une envie aussi de mettre un peu de merveilleux en cette fin d'année, en évoquant ce demi-siècle.
Alors, en fait, quand le projet s'est mis en place, il y a un an, on ne savait pas qu'on allait traverser une période 2020 si compliquée pour tout le monde et pour la culture, comme tous les secteurs d'industrie. On oublie de dire que la culture, c'est une industrie. Ça fait travailler énormément de personnes. Oui, c'est peut-être, on met un peu de féerie et de poésie. Moi, surtout, je pense à tous les artistes qui ne travaillent pas. Je pense à tout ce secteur qui est très, très impacté. Et ça nous trouble beaucoup. C'est quelque chose qui m'émeut beaucoup de voir toutes ces salles de spectacle fermées, toutes ces salles de cinéma fermées, non autorisées, alors qu'il y a quand même, j'allais dire, quand même des conditions sanitaires qui pourraient le permettre.
On a beaucoup regardé de films sur des plateformes, sur Netflix notamment. Oui. Les films d'Agnès et de Jacques Demy, d'Agnès Varda et de Jacques Demy sont disponibles.
Oui, c'est très bien.
Sur Netflix, oui, c'est pas un danger.
Non, alors c'est pas un danger. Il faut revoir tout notre discours par rapport à ça. Je travaille avec MK2, vous savez, avec Nathanaël et Elisha Karmitz. Moi, je suis pour que les films aillent sur les plateformes. C'est comme ça qu'on aura une audience avec des jeunes spectateurs qui n'iront peut-être pas en salle de cinéma pour voir des vieux films, comme on dit. Les films de Jacques Demy, des Truffaut étaient disponibles sur Netflix au moment du premier confinement. Moi, j'ai eu plein de messages sur les réseaux sociaux d'anonymes que je connaissais pas qui ont découvert les films de Demy. Agnès était sur Amazon. Il faut tout faire pour que les films soient vus.
Il était une fois Peau d'âne, un livre qui va donner envie à ceux qui ne l'ont pas vu de voir ou de revoir le film qui sera d'ailleurs diffusé dans quelques jours à la télévision. Rosalie Vardin-Demy, Emmanuel Pierra aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On a peu parlé des acteurs, évidemment.
On peut continuer.
Ce sera une autre fois, mais je propose de nous quitter avec une actrice parce que c'est aussi un film féministe, Peau d'âne. Delphine Seyrig, voici Delphine Seyrig elle-même qui chante. Ça, c'est pas dans le film, mais c'est un essai.
La situation mérite attention. mon enfant. On n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent dans leur temps qu'on ne marie pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
La voix de Delphine Seyrig dans la musique de Podane, mais ça c'est pas dans le film, c'est une archive personnelle de la famille Varda Demy. Merci beaucoup.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.